Bien, donc on m'a demandé pour commencer de dire juste deux mots sur l'identité de l'Institut Lumière. Donc elle existe depuis 1988, elle s'est installée, je vais faire très rapide, hein, rassurez-vous, elle s'est installée dans un lieu qui était d'évidence, puisque la villa dans laquelle vous êtes entré hier n'existait plus dans le sens où elle n'était plus en activité, elle était complètement fermée. La maison de Louis-Auguste avait été détruite et qu'il ne restait sur un terrain vague plus que ce qui avait servi de décor à Louis Lumière en 1895 pour tourner le premier film, qui était donc le hangar du premier film. Donc grâce à Bertrand Tavernier, cinéaste, Bernard Charder, qui à l'époque était le rédacteur en chef de la revue Positif, qui était donc la revue concurrentielle et la plus importante revue concurrentielle donc des cahiers du cinéma, Paul Génard, qui était un collectionneur privé qui avait une des plus grosses collections européennes d'appareils du pré-cinéma et d'appareils ayant appartenu à Lumière, la famille Lumière évidemment, plus des représentants de la ville de Lyon. Le château a donc été racheté et s'est installée la Fondation nationale de la photo d'abord, qui était donc lieu d'exposition, et progressivement Bernard Charder a imposé un lieu dédié à la mémoire du cinéma. Donc pendant quelques années les locaux ont été partagés, donc dans la Villa Lumière, le hangar est resté tel qu'il était, hein, toujours dans ce terrain vague, les locaux ont été partagés entre la Fondation nationale de la photo, qui était dirigée par Sonia Bove, et l'Institut Lumière par Bernard Charder. Puis quand est arrivée l'annonce du centenaire du cinéma, donc 1895, on est là à peu près 4 ans avant, 90-91, une nouvelle équipe arrive, donc celle de Thierry Frémaux, qui est actuellement le sélectionneur général, délégué général du Festival de Cannes, et donc président, directeur pardon, de l'Institut Lumière, et Sylvie Burga, qui venait du monde de l'art contemporain, et tous les deux, donc, en double direction, ils ont la Fondation nationale de la photographie a fermé, et l'Institut Lumière donc, s'est installé dans la villa. Ils sont donc arrivés pour remplacer Bernard Charder, qui partait à la retraite, et ils ont eu pour mission donc, de créer un Institut Lumière, mais pas tel qu'il existait à l'époque, avec différents secteurs d'activité. Donc c'est créé le secteur d'activité de l'édition, puisqu'on édite des livres. Évidemment, la programmation, toutes les cérémonies, toutes les festivités en lien avec le centenaire du cinéma qui ont été organisées. Un secteur pédagogique dont j'ai pris la coordination. Une bibliothèque qui s'est enrichie, qui avait été fondée par Raymond Chirac, qui est un historien du cinéma. Voilà, donc différents secteurs d'activité ont enrichi l'Institut Lumière, ce qui nous a porté à passer, difficilement, mais à passer le centenaire du cinéma, ce qui nous a permis médiatiquement d'exister dans un quartier de la ville où il n'y avait plus de mémoire, hein, c'était fini, hein, il ne restait absolument rien. Donc d'exister, de faire renaître cette idée de transmission et de conservation du patrimoine cinématographique. Et donc ça a conduit en 1998 à l'ouverture de la grande salle, alors que vous n'avez pas vu en fait, hein, du coup, voilà, puisque les conférences ont lieu à 15h et 19h, 15h dans la grande salle et 19h dans la petite salle, vous avez vu les problèmes que ça pose, vous avez vécu en direct. Donc la grande salle a ouvert en 1998, et c'est à ce moment-là que Pierre Kolbok, qui était l'architecte qui a rénové la gare d'Orsay, bon, qui a fait le musée d'Orsay, a mis sous verre ce hangar du premier film, ce premier décor, qui devient symboliquement l'endroit où entrent les spectateurs pour voir les films à l'Institut Lumière, alors que c'est là même, à cet endroit-là, que sont sortis les premiers acteurs, entre guillemets, du premier film. Voilà, donc lieu symbolique, le hangar du premier film, désormais restauré, conservé, qui donne accès donc à la grande salle de cinéma de 270 places, où a lieu donc aujourd'hui la programmation de l'Institut Lumière. Donc là, c'est un cycle Alfred Hitchcock qui tourne en même temps que la rétro à la Cinémathèque française. Voilà, donc on change. Ici, il se trouve que c'est sur 3 mois parce que c'est une grosse rétro, mais en principe, ça court sur 2 mois. C'est soit un cinéaste, soit un genre, voilà. Donc ça, c'est l'activité principale de l'Institut Lumière. Et puis, depuis 1998, on a développé d'autres secteurs d'activité qui étaient un peu embryonnaires, et notamment le musée, qui a ouvert en 2003 sur 3 étages. avec la donation de Paul Génard, donc le collectionneur dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait partie du comité qui a sauvé l'Institut Lumière, enfin qui a permis la création de l'Institut Lumière, et la possibilité donc d'exposer les plus beaux objets de sa collection, dont le fameux cinématographe du 28 décembre 1895, celui qui a fait la première projection au Grand Café à Paris. Donc ça, c'est la deuxième partie du grand développement de l'Institut Lumière. Donc 1998, la grande salle, 2003, le musée. Et puis, vous le savez, donc depuis 2 ans, le troisième grand secteur d'activité dont on parlait depuis longtemps. Et puis, ça se faisait pas, mais ça s'est fait. Enfin, grâce au Grand Lyon, le Festival du cinéma, donc qui a commencé en 2009. La deuxième édition a eu lieu donc en octobre dernier, avec la remise d'un prix qui est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler un prix Nobel du cinéma, c'est-à-dire récompenser quelqu'un pour l'ensemble de sa carrière, du point de vue de la France, du point de vue d'un comité de sélection, voilà, lié au patrimoine, à l'idée du patrimoine cinématographique. Donc c'est Clint Eastwood qui a été récompensé pour l'ensemble de sa carrière en 2009, et Milos Forman en 2010. Sachant qu'il en reste un quatrième qui est en ce moment en discussion, qui est qu'avec toutes ces activités, on commence à être un peu à l'étroit. Du coup, je me permets de reprendre mon exemple hier, vous l'avez vécu en direct. Donc voilà, l'idée serait de provoquer une extension de l'Institut Lumière, sans évidemment sortir du quartier, parce que c'est devenu aujourd'hui très important pour le quartier que vive cette idée de l'histoire du cinéma et de l'invention du cinéma dans ce quartier, où il n'y avait rien, absolument rien. Le petit parc que vous avez vu, par exemple, en face de la villa, est le seul point vert de ce quartier. Il n'a pas du tout été pensé pour être un lieu de vie agréable, commune, etc. C'était simplement un quartier d'ouvriers qui s'est construit autour des usines Lumière, agrandi avec les hôpitaux, agrandi avec le quartier Tony Garnier, mais qui est resté loin de toute activité culturelle, de toute rien à voir avec le Vieux Lyon, le quartier Renaissance, les quartiers de la Croix-Rousse, etc. Donc c'est très très important, et pour la ville et pour les habitants du quartier, de se dire que les touristes viennent ici, viennent dans ce quartier pour visiter l'Institut Lumière, pour venir se recueillir sur les traces de là où on a tourné le premier film, de voir des films. Ils sont très fiers de savoir que c'est là qu'a lieu qu'une cinémathèque, que la vie d'une cinémathèque est en pleine activité. Donc cette extension est prévue pour sur entre 4 et 5 ans, donc en ne sortant pas de ce quartier, qui se prolongerait donc le long du cours Albert Thomas, une espèce de grand bâtiment qui relierait la grande salle et la Villa Lumière, dans lequel il y aurait des espaces de conférences, évidemment un grand lieu d'exposition, une nouvelle bibliothèque, beaucoup plus grande que celle qu'on a, des bureaux et une deuxième salle de cinéma. Et ce qui fait que la Villa Lumière deviendrait un lieu simplement de visite, hein, où on pourrait revenir sur les lieux de là où a vécu la famille Lumière. Voilà où on en est. Donc à l'heure actuelle, nous on pense à développer l'Institut Lumière, en tout cas à la rendre active avec les moyens qu'on a, alors qui sont évidemment le festival, où toute une partie de l'équipe du festival arrive à peu près en juin pour organiser le festival, mais nous y participons tous, c'est-à-dire qu'on bascule à un moment donné sur le festival, c'est très important pour nous. Voilà, de participer, évidemment, l'équipe de l'Institut Lumière à cet événement. Mais, je raccorde avec ce que vous avez vu hier, il y a 3 ans, j'ai eu l'idée de développer cette idée de cycle de conférences pour transmettre un savoir et m'adresser au grand public, non pas comme on le faisait depuis longtemps, simplement aux scolaires ou aux enseignants, mais aussi au grand public, la possibilité de venir assister à des conférences sur l'histoire du cinéma. Donc ça fait partie des activités que j'ai développées personnellement. Et en programmation artistique, les Nuits Fantastiques, donc c'est la 10e qui a eu lieu la semaine dernière, qui rassemble, là du point de vue vraiment de la cinéphilie et de la fréquentation des salles, un public de fans du cinéma fantastique. Ça n'existait plus à Lyon, ça n'existait même pas du tout, alors que ça existe dans plein d'autres villes, et donc ça a un grand succès, hein, puisque on remplit la salle et ça marche très bien, ce qui nous a permis évidemment de toucher un nouveau public que simplement le public des abonnés ou de ceux qui avaient l'habitude de fréquenter l'Institut Lumière, puisqu'on touche du point de vue générationnel un public qui va entre, on va dire, 16, 10, 17 ans et 25, 30 à peu près, hein, dans le gros du public. Voilà, et plus évidemment continuer à bien développer notre activité, notamment d'édition. Là, par exemple, la sortie effectivement du livre d'Hitchcock en même temps que la rétro. Les expositions qui ont lieu à l'extérieur de l'Institut Lumière, la projection des films Lumière soit dans des festivals, soit dans des hommages qui sont rendus à l'histoire du cinéma. Donc on a évidemment plein de petites activités comme ça qui fonctionnent en même temps que la principale qui est la programmation artistique. Voilà, très rapidement, un portrait de ce qu'est l'Institut Lumière. Alors si, juridiquement, donc on est une association, loi 1901, donc on est sous tutelle de la ville de Lyon, du conseil général, du conseil régional, du département, donc du CNC, bien entendu, de la DRAC, et on est presque à 50% de ressources propres, ce qui est énorme pour une institution culturelle, c'est assez rare. Ce qui nous permet d'avoir un fonds de roulement. Alors là, j'entre dans une partie du fonctionnement de l'Institut Lumière que je connais moins, puisque évidemment c'est pas ma fonction. Mais ça nous permet d'avoir un fonds de roulement propre pour éventuellement développer, voilà, des activités où on n'a pas besoin de subventions pour le faire. Et ça nous donne une relative autonomie, une relative liberté. Dernière chose de ce point de vue juridique, nous n'avons pas le statut de cinémathèque parce que nous transmettons le patrimoine cinématographique à travers la programmation. Nous archivons le patrimoine cinématographique à travers le dépôt de copies, mais nous ne faisons pas de restauration de films. Et pour être cinémathèque, il faut faire de la restauration de films.
Il y avait une question là. Mais il y avait un micro qui circulait quelque part. Il y avait une question, si vous me permettez.
Bien sûr, bien sûr.
Sur votre présentation générale, est-ce que vous avez des relations avec la production et notamment, je pense, au studio de Villeurbanne ?
Bien sûr. Alors, on a dans notre fonctionnement, on n'a pas de relation parce qu'on n'est pas du tout producteur, puisque nous, c'est la diffusion du patrimoine cinématographique. Par contre, évidemment, on est un des principaux partenaires de Ronalp Cinéma, donc des studios du studio 24 de Villeurbanne, mais pas sur l'activité, sur sur, par exemple, lorsqu'un film est réalisé par eux, très souvent, les avant-premières se font à l'Institut Lumière ou sont organisées par l'Institut Lumière, par exemple. Voilà, c'est ce type de rapport qu'il peut y avoir entre nous. Mais par contre, on n'empiète pas du tout, nous, sur le terrain de la production.
Vous n'êtes pas partenaire avec
les films ? Alors, si, puisque... le partenariat, alors là, c'est la même chose, hein, c'est moins mon domaine, mais parce que nous, sur le service pédagogique, on ne fonctionne pas du tout avec la Cinémathèque française. Par contre, sur l'activité de programmation, c'est des échanges de cinémathèque, hein, c'est-à-dire que dans les dépôts de copies, c'est très important pour nous de pouvoir faire circuler entre cinémathèques les copies. Parce que si chacun gardait ses copies, on n'irait pas très loin. C'est-à-dire que là, par exemple, la rétro Hitchcock, il y a un certain nombre de films qui viennent de la Cinémathèque française, et inversement. Donc ça permet de composer une rétro. Ben, je vous parlais des Nuits Fantastiques. La dernière qui a eu lieu était consacrée au studio de production de la Hammer, qui a fait des films sous le label Hammer, réalisé par Terence Fisher dans les années 60-70, on va dire. Le film qui a été programmé avec Christopher Lee, qui était donc Dracula, Prince des Ténèbres, est une copie qui vient de la Cinémathèque française. On n'en avait pas trouvé ailleurs. S'il n'avait pas eu la copie de la Cinémathèque française, le prêt, on n'aurait pas pu montrer de film. Voilà. Donc ça fait partie vraiment de ces moments où on a vraiment besoin les uns des autres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur la comédie musicale que je n'ai pas dit hier, parce que j'ai été très complet.
Je crois que déjà toutes les personnes ont été très contentes de la conférence d'hier.
Alors, juste, voilà, peut-être vous dire simplement comment... après, on peut revenir sur le contenu, si vous voulez, bien entendu. Hein. Voilà, juste sur la manière de ma manière de faire, donc... Il est très important, enfin je pense que vous l'avez évidemment ressenti, vu hier soir, il est très important pour moi dans ces conférences de ne pas faire ce que je suis en train de faire là par exemple, hein, c'est-à-dire sur la forme, hein, j'entends bien évidemment, c'est-à-dire de m'asseoir devant un public et de parler de cinéma sans qu'il voit d'image. Voilà, comme là, si j'étais venu vous faire la conférence d'hier, j'aurais amené mon vidéoprojecteur, j'aurais amené mes extraits. Il est très très important pour moi de céder, voilà, en tant que conférencier, de faire partager voilà, ces moments de création, qu'on les connaisse ou pas. D'ailleurs, dans ce sens-là, je compose mes conférences en fonction d'un public où... Alors après, chacun peut interpréter ça à sa manière. Est-ce qu'il y en a qui vont dire bah, c'est nivelé par le bas? Moi, c'est faire comme si personne n'était au courant. Voilà. C'est-à-dire, quand je vais prononcer le mot Fred Astaire, je vais prononcer la phrase: il était chanteur, il était danseur. Il a travaillé pour la RKO dans les années 30-40. Je repars du début. Après, celui qui le sait, tant mieux. Celui qui ne le sait pas, ben, le découvre. Et après, on commence à avancer progressivement. Et je m'arrête assez vite, sachant que je mets régulièrement le public qui est en face de moi en avertissement de ma manière de faire. Je sais qu'il y a des gens à qui ça ne plaît pas, d'autres à qui ça plaît, sur le fait que moi, ce qui m'intéresse, c'est de redonner des bases. C'est-à-dire de prendre voilà, quelque chose qui a marqué l'histoire du cinéma. Ça peut être ça peut être une période, ça peut être une école, comme on a fait la Nouvelle Vague l'année dernière. Ça peut être un genre, ça peut être un réalisateur, bien entendu. Mais ils ont marqué l'histoire du cinéma à un temps donné. Redéfinir pourquoi, redire pourquoi, et réinstaller voilà, les principales étapes. C'est pour ça que, par exemple, dans le choix des extraits, c'est aussi important pour moi de faire découvrir voilà, un extrait de film avec Shirley Temple, dont je sais très bien que, à part quelques spécialistes, c'est quand même pas les films qui sont le plus vus aujourd'hui, que de remontrer. Enfin, jamais je me dirais, je ne vais pas, si je fais une conférence sur la comédie musicale, jamais je ne me dirais, et c'est absolument pas la peine que je montre Singing in the Rain, le moment où il chante sous la pluie, parce que tout le monde le connaît. Ça m'intéresse pas. C'est pas ce qui fait que moi je n'aborde pas le sujet comme ça, en tout cas. On le revoit, ceux qui le connaissent, tant mieux. Et puis, après, on peut en parler, c'est-à-dire qu'on peut revenir dessus, vous, voilà, montrer ce que j'ai fait, c'est-à-dire pointer du regard quelques moments intéressants, parce que l'analyse est aussi importante pour comprendre les choses. C'est important de voir comment une image fonctionne. Donc voilà, j'essaye de doser, ce qui n'est pas facile, parce que, il faut définir la durée des extraits en fonction du temps qui m'est donné. Et c'est vrai que quand je la fais pour la première fois, souvent j'ai du mal à doser mon discours par rapport à... Donc le public que vous avez eu avant, qui a eu avant pour cette conférence à 15h, a essuyé les plâtres, entre guillemets. C'est-à-dire que je me suis... J'ai longuement expliqué des choses et j'étais en retard, donc j'ai un peu bâclé la fin. Donc j'ai rétabli l'équilibre à 19h. C'est-à-dire que dans la première partie, j'ai été beaucoup plus synthétique sur certains faits ou sur certains acteurs ou sur certains moments, voilà, sur certains extraits, ce qui m'a permis de pas avoir à penser ce que j'allais avoir à dire pour aller vite à la fin, et ce qui m'a permis de garder mon rythme et de garder mon fil conducteur, mon contenu, etc. Ce qui m'a permis de... Vous avez vu pourtant, hein, j'ai dépassé quand même de 5-6 minutes par rapport à ce que j'avais prévu. Donc voilà, je l'ai... C'est à partir de ça, de ces deux éléments, que je les conçois, et je ne peux pas, moi, travailler autrement. C'est-à-dire que, évidemment, je fais en même temps appel à mon goût personnel, hein, bien entendu, à ma propre cinéphilie. Ça, c'est important pour moi de que le public sente que c'est pas quelque chose qui m'ennuie que je montre, que c'est quelque chose que j'aime, que c'est quelque chose que j'ai envie de faire partager. C'est-à-dire que j'essaye de doser des informations qu'on va donner, de l'analyse, et en même temps un côté un peu passionnel, un côté un peu émotif, pour moi émouvant, qui est que voilà, j'ai moi-même été sensible à tel ou tel moment du cinéma, et j'ai envie de les faire partager. Alors, on n'a pas évidemment tous les mêmes goûts, donc je sais que dans le public, il y a des gens que ben voilà, que ça ne va pas toucher, puis je sais qu'il y en a d'autres que ça va toucher, et ça, c'est moi ce qui m'intéresse aussi. Voilà, donc c'est comme ça que je les conçois depuis... maintenant, je fais ces conférences depuis à peu près une dizaine d'années maintenant, depuis 3 ans à l'Institut Lumière. J'ai mis beaucoup de temps à les faire à l'Institut Lumière parce que c'est un public d'abonnés, c'est un public de cinéphiles, c'est un public exigeant. Et non pas que je me sentais pas, évidemment, du point de vue du contenu, capable de parler de telle ou telle chose, mais je voulais avoir une maturité, une expérience qui me permette de pouvoir privilégier ce public, c'est-à-dire de lui donner quelque chose qui était à la hauteur de ses attentes, en tout cas. Dans l'exigence du public de l'Institut Lumière, dont on sait qu'il est très cinéphile.
Dans votre public, c'est un public mélangé
Vous n'avez pas de public de scolaires ? Je pensais notamment à des professeurs de langue qui travaillent avec des extraits de comédies musicales et qui sont demandeurs, en général, de ces choses-là.
Alors, si on proposait ce catalogue, on va dire, de conférences, à l'Institut Lumière, dans le secteur que je coordonne, si on proposait ça aux enseignants, on croulerait sous la demande. Ça, c'est évident, parce que pour telle ou telle raison, vous dites les professeurs de langue, mais pour tel ou tel sujet, hein, que ce soit un genre comme le western, que ce soit... on le sait parce que on a... Après, c'est un problème tout simplement d'emploi du temps quotidien, c'est-à-dire qu'il faut trouver les personnes pour le faire. Il faut trouver les personnes qui ont envie de parler de la comédie musicale, du western, etc. Donc ça veut dire former des gens pour le faire. Après, c'est une question de moyens. Donc après, voilà, tout est là. Hein, et c'est ce qui rend les choses évidemment difficiles. Alors, pour essayer de combler un peu ce vide... On a transformé les principales conférences, elles existent donc sur la comédie musicale américaine, en documentaire d'1h07, où je suis en voix off, en fait, voilà, avec le même type d'extrait. Donc, ça fonctionne régulièrement. Hein, c'est-à-dire qu'on a, de manière très régulière et assez fréquente, les enseignants qui viennent visiter le musée avec leur classe et qui, à la suite du musée, prennent la conférence. Mais malheureusement, on n'a pas les moyens d'avoir quelqu'un en live, on va dire, hein, voilà, on pourrait imaginer qu'une batterie d'animateurs, hein, autour de l'histoire du cinéma soit formée. Mais pour l'instant, on est dans des locaux trop petits. On est dans une institution qui ne peut pas s'agrandir de cette manière-là. Ce serait disproportionné par rapport à la demande, par rapport à ce qu'on pourrait... Voilà, donc on a transformé ça pour l'instant en documentaire, si on peut appeler ça. Enfin, en tout cas, en conférence audiovisuelle, c'est-à-dire où moi, je suis en voix off. Donc il y a le western, il y a la comédie musicale. Alors là, on est très basique, hein, western, comédie musicale, burlesque, le cinéma français, le cinéma italien, voilà. C'est le moyen qu'on a trouvé pour...
Je veux juste savoir où est-ce qu'elles sont à la vente,
Alors, elles ne sont pas à la vente, tout simplement pour des questions d'ayant droit. C'est-à-dire que ce que vous avez vu hier est toléré par le CNC, parce que c'est sous le principe d'une conférence, c'est-à-dire que logiquement, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je devrais parler sans arrêt par-dessus les extraits, c'est-à-dire pas vous les montrer à la limite, voilà, comme j'ai fait avec le chanteur du dessus, par exemple. Voilà. Mais il n'y a aucun problème, hein, c'est-à-dire que on peut tout à fait, tout le monde le fait d'ailleurs, voilà, si je vous fais pas, je vous assois pas dans une salle et je vous fais payer pour voir le film en entier, il y a cette tolérance du CNC, de l'ayant droit, qui nous permet de les vendre, de communiquer dessus, d'en parler aux journalistes, à la presse, de ne pas se cacher pour le faire, d'avoir un public qui paye pour venir. Tout ça est toléré, voilà. Mais toléré, parce que du point de vue de légal, ce que j'ai fait hier, moi, je suis en prison, j'ai absolument pas le droit de le faire. Hein. Montrer un extrait comme ça à un public payant, ça, c'est rien dans les textes ne l'autorise. Donc, par contre, s'il fallait transformer ça en un produit qui se vende, voilà, un DVD, il faudrait faire la recherche d'ayant droit pour tous les extraits. Et à ce moment-là, on serait peut-être limité. Alors, ça sera un jour en projet, mais pour l'instant, ça ne l'est pas.
C'est du prêt.
Non, c'est pas ça.
C'est sur place. C'est comme ce que vous avez vu hier, en fait. Ça n'existe que comme ça.
Ah, d'accord. Ouais. J'avais compris que vous aviez enregistré.
Oui, oui. Alors, on le fait, on le fait pour les scolaires, mais sur place.
Ah, d'accord. C'est
voilà. Et où je suis remplacé par une voix off. Donc si vous voulez, ça c'est la tolérance du CNC. À partir du moment où on mettrait ça sur un DVD et qu'on le vende, il faudrait faire de la recherche d'ayant droit, et ça c'est pas possible. Oui, alors on verra. Voilà, pour l'instant, on continue de le faire. Si un jour on a un problème, on a la chance d'avoir, avec le statut de l'Institut Lumière, d'avoir personne qui nous tombe dessus à bras raccourcis, c'est-à-dire que c'est toujours par le biais de discussions. Voilà, le peu de fois où c'est arrivé, c'est l'avantage du statut des cinémathèques, c'est que on sait qu'on le fait pour voilà, on connaît le but. Et donc ils sont tolérants avec nous. Bah, ce type de conférence, je l'ai eu fait devant des représentants du CNC, voilà, qui venaient à l'Institut Lumière, visiter l'Institut Lumière avec un groupe, et puis qui demandaient une animation après. Ça, évidemment, ça pose aucun problème. Voilà, ils le savent bien de toute façon, et heureusement, ils le savent bien que on va dire ce type de démarche, en tout cas ce que vous avez vu hier soir, contribue à faire connaître et donne envie aux gens de voir les films. Donc c'est pas ça fait pas quelqu'un qui voit cette conférence a plutôt envie de voir les films en entier plutôt que de se dire bah ça y est, je les ai tous vus, plus jamais je les verrai. Donc ça, ils en sont conscients. Donc c'est pour ça que pour ce côté-là, on risque rien. Mais mais il y a plein de choses effectivement qui, du point de vue des textes, là on peut pas contourner, hein, ça c'est sûr.
Oui, moi j'avais une question. Par rapport à ce que vous énoncez là sur le public scolaire, d'autres publics, est-ce que vous ne seriez pas intéressé justement par rapport à la formation enseignante et peut-être de travailler comme dans certaines structures culturelles, notamment les musées, les centres d'art contemporain, voilà, de travailler avec des enseignants relais, de faire un travail peut-être de médiation entre l'enseignant et vos connaissances, c'est-à-dire petit à petit bâtir un réseau et peut-être travailler aussi des outils, c'est-à-dire pas forcément la voix off, ce qui est un petit peu dommage, mais peut-être...
Alors ça, c'est mon rêve. Voilà. Sauf que c'est un peu chasse gardée de l'UFM, la formation enseignant.
Elle n'existe plus. Hein,
oui, mais... Après, je...
Ouais.
Ouais. Mais c'est depuis l'année dernière, c'est ça?
Oui.
Ouais. Enfin, officiellement, depuis... alors voilà, c'est pour ça qu'on ne le faisait pas jusqu'à présent. Maintenant, c'est quelque chose qu'on va penser peut-être.
Voilà. Alors ça, c'est le problème réel. Disons que là, on est devant
oui.
Voilà, donc des personnes qui sont tous engagées dans la formation d'enseignants. Il y a l'histoire de l'enseignement de l'histoire des arts à pratiquer à l'école, en particulier donc le cinéma qui fait partie donc de cet enseignement des histoires des arts. Et donc il y a tous ces problèmes de formation. Quelles sont les notions? Quels sont les contenus? Etc. Comment se former? Sachant qu'effectivement les UFM ont disparu. Sachant que dans les maquettes de master, je crois qu'il y a très peu de choses. Voilà. Et donc effectivement, quels pourraient être les relais? Entre autres avec l'Institut Lumière. Alors nous, on est à Lyon, et j'ai envie de dire, on pourrait éventuellement travailler avec l'ENS, mais c'est un privilège. Mmh. Voilà. Donc éventuellement, et comment on pourrait développer ce rêve-là de faire des formateurs en relais, enfin, au niveau de la culture cinématographique. Et comment, il faudrait faire une formation véritable d'historien du cinéma. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Et après, oui, c'est le problème, c'est que c'est pas des choses qui, enfin, c'est pas une formation à l'histoire du cinéma. Elle peut se concevoir, mais il faut, enfin, je pense que de base, il faut établir un programme qui puisse après être répercuté et définir ce programme, c'est extrêmement difficile parce que, ben, nous, on peut pas être, enfin, nous, on peut éventuellement proposer des choses, mais. C'est aussi lié, si vous voulez, au fonctionnement de l'Institut Lumière, qui est dans son esprit plus sous tutelle du ministère de la Culture que du ministère de l'Éducation nationale. Il y a un service pédagogique, mais nous intervenons, nous, plus dans l'esprit du ministère de la Culture. C'est-à-dire qu'on apporte un supplément. Il n'est pas question de se substituer aux enseignants, c'est-à-dire d'établir des programmes de formation ou dire, ben voilà, à partir de ça, on va partir de tel... de telle idée, on le laisse. Que nous, dans notre fonctionnement, ça évidemment, ça, ça c'est lié au fonctionnement quotidien. C'est-à-dire que nous, notre travail, il est plus de éventuellement de répondre à la demande. Mais ça ne veut pas dire que on peut pas établir après un programme de formation. Mais ça veut dire que si on le fait, on en sera les acteurs, mais aussi les concepteurs et les producteurs. C'est-à-dire que on deviendra pas un formateur. Parce que d'un programme qui sera établi, pas par nous, ce ne sera pas notre mission, ce ne sera pas notre travail. C'est-à-dire que, voilà, on pourra nous proposer à ce qu'il puisse y avoir des formations aux enseignants. Alors après, à eux peut-être de travailler ou de monter un projet avec leurs élèves, autour, par exemple, de la comédie musicale. Ça, c'est quelque chose qui serait possible.
Voilà. Je vais juste légèrement rétablir un petit peu les choses, parce que j'ai entendu un petit peu un discours sur la formation et qu'il y avait une espèce de territoire chasse gardée.
Jusqu'à présent, on n'osait pas trop investir le territoire des formateurs.
Voilà. Mais après, je crois que ça dépend des académies, parce que ce n'est pas le cas là où je travaille. Mm-hmm. Et je pense que c'est vraiment plutôt des liens à tisser avec des formateurs de toute nature que ce soit. Ça peut être du premier degré, ça peut être du secondaire, ça peut être de l'université. C'est des gens qui travaillent ensemble, qui construisent les choses ensemble, et finalement la formation, si vous voulez, elle est double ou elle est triple, et elle passe avec tous ces acteurs-là, elle se construit ensemble. Il peut y avoir des dossiers, il peut y avoir des traces, c'est un petit peu différent, c'est vraiment un travail commun. Mmh. Entre l'enseignement et puis une structure culturelle, parce que votre structure culturelle, elle est extraordinaire quand même. Voilà, donc voilà, elle a une grande richesse, elle a un grand potentiel.
Mmh. Nous, on peut être le partenaire de quelque chose. Bien sûr, mais absolument pas à l'origine de ça. On n'a pas du tout les moyens pour faire ça. On l'est, par exemple, avec le CRDP. On est les partenaires du Préac Cinéma. On accueille des journées de formation enseignants, on participe à l'élaboration des DVD qu'ils fabriquent. Il y a une formation enseignant au moment du Festival du cinéma. Donc on est partenaire, on est acteur. Mais au niveau de fonctionnement de l'Institut Lumière, on ne peut pas développer quelque chose de plus important que ça. Déjà, on a du mal à répondre à la demande. Hein.
Je pense qu'il y a d'autres questions là.
J'étais pas là hier soir, mais j'ai une question sur la comédie musicale. Alors, si vous l'avez déjà traitée, ou au moins que vous ne souhaitiez la développer, je veux dire, je ne vais pas vous obliger à vous répéter. Sur les rapports entre le film de comédie musicale et la comédie musicale vivante, je dirais, même historiquement, quoi, dans la diachronie, que ce soit sur la nature, les formes, les thèmes, les contenus, la fonction sociologique ou autre, ou esthétique. Moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, quoi. Alors, je ne sais pas si vous l'avez abordé hier soir.
Vous voulez dire entre les films et les musicals, le spectacle vivant, c'est ça. Mais j'en ai parlé, en fait, sur le sujet cerné hier, qui était la comédie musicale américaine. Je n'ai fait de parallèle qu'entre les superproductions qui sont les adaptations des musicals de Broadway. Voilà. Donc je suis resté uniquement sur ce rapport-là. On a surtout, évidemment, très rapidement, parce que voilà, on n'a pas beaucoup de temps, très rapidement vu les liens qui existaient entre, on va dire, la scénographie de ces superproductions sur scène et la manière dont c'était traité, dont le cinéma s'en emparait. C'est-à-dire le dosage que le cinéaste doit faire entre créer un monde qui est celui du cinéma, donc qui est complètement réaliste, mais garder en même temps l'artificialité des décors et de la scène pour faire un habile dosage, parce que sinon c'est ce qu'on appelle de la captation, donc ça sert à rien. Et si le metteur en scène impose un point de vue cinématographique en annihilant tout spectacle vivant, enfin tout ce qui est de l'ordre du spectacle vivant, le metteur en scène se perd dans des méandres dont il n'arrive pas à sortir, et le film est boursouflé et très maladroit. Donc ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire et que j'ai pas eu le temps de développer, c'est le rapport d'humilité que le cinéma doit entretenir face à un spectacle de cette taille, hein, surtout les musicals de Broadway qui sont dont on sait très bien qu'ils sont millimétrés à la seconde, qu'ils sont avec énormément de danseurs, où tout est absolument parfaitement orchestré, millimétré, etc. Et sa traduction au cinéma, voilà, où on doit trouver le dosage entre redonner au public, et surtout pas décevoir le public de ça, de ce qu'est un musical, et en même temps, voilà, de créer un univers cinématographique. Donc, dans la période dont j'ai parlé, c'est les années 60, c'est-à-dire l'adaptation des grands musicals qui ont été West Side Story, voilà, My Fair Lady essentiellement. Et on voit, notamment, j'ai pris l'exemple à travers West Side Story, parce que c'était un des plus significatifs, comment on recrée un univers réaliste. Et en même temps, le film bascule, glisse à un certain moment dans un rapport qui est purement scénique, c'est-à-dire où le public cinématographique à un moment donné très précis, l'impression d'être au Music Hall de Broadway, et où on revient après dans l'univers du film. Voilà, donc j'en ai parlé uniquement de ce point de vue-là.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez en dire aujourd'hui ?
Sur ce qu'il y a aujourd'hui ?
Oui, sur ce qui se produit aujourd'hui, et je pense aussi au rapport, par exemple, il y a le film d'opéra. Il y a même des grosses opérations de je ne sais plus quel grand distributeur là, dans les salles, je ne sais plus si c'est Pathé ou Pathé Cinéma qui fait des promotions d'opéra, de séances de film.
Ah, mais c'est de la captation, ça. On voit l'opéra dans la salle de cinéma.
C'est de la captation.
Ouais, c'est ça. Hein. Oui, ça,
enfin,
c'est.
Il y a aussi des films
d'opéra. Oui, alors, il y a eu. Alors, ça a été un courant, notamment initié par Daniel Toscan du Plantier. Hein, dans les années 80, qui a été, c'est son Don Giovanni, il y a eu la Traviata, il y en a eu quelques-uns comme ça. Non, ça, enfin, on peut en discuter si vous voulez, ça, je le mets complètement à part par rapport à la définition du genre. Hein, c'est-à-dire que c'est important aussi pour moi, quand on aborde un genre cinématographique, de respecter, c'est-à-dire dans le sens de ne pas se disperser, mais de respecter ce qui fait l'origine et l'identité réelle du genre. Donc là, on a vraiment défini un type de comédie musicale cernée dans un seul pays, voilà, fait à peu près tous de la même manière, sur le modèle Vincente Minnelli, on va dire. Voilà. Parce que il est hors de question pour moi, en une heure et demie, de trop me disperser, parce que j'en reviendrai à ne faire que de l'intervention dictionnaire, c'est-à-dire de dire à telle époque il y a eu ça, à telle époque il y a eu ça. Or, il est important pour moi de présenter l'extrait qu'on va voir, mais de redéfinir à chaque fois, de pas simplement le voir pour le voir, hein, c'est-à-dire de bien le resituer dans son contexte, de bien en donner des pistes esthétiques, d'analyse, etc. Et tout ça au service d'un sujet qu'on a choisi et qui reste très très cerné. Donc ce dont vous parlez là, c'est un sujet que j'aborde plus dans une conférence que j'ai sur les rapports transversaux qui peuvent exister entre un art et le cinéma, et là, en l'occurrence, la musique classique et le cinéma. Donc ça, c'est là, je l'aborde à ce moment-là où on voit un exemple justement de ce qui a été l'adaptation cinématographique des grands opéras. J'ai pas à en dire plus que ça sur ce dont vous parlez maintenant. Il n'y a plus rien qui aujourd'hui, on va dire, est digne de ce qu'a été cette période d'or de la comédie musicale, avec ce critère que j'ai choisi et qui jalonne toute la conférence, qui est celui de Vincente Minnelli, de créer un univers. De créer un univers réaliste, mais complètement, complètement magnifié par le réalisateur.
Comédie musicale a aidé à renouveler, justement, ou voire à lancer, je ne sais pas, hein, j'y connais rien, moi, historiquement, mais le film d'opéra, et notamment, je pense aux mises en scène de Lozay pour Don Giovanni, et deux, trois autres par la suite, quoi. Y compris ont relancé la mise en scène des opéras vivants par la suite.
Tout est lié, mais je vois pas dans le public qu'a trouvé les producteurs qui ont fait ces opéras filmés à l'époque de rapport direct avec la comédie musicale. Je pense que c'est pas le même univers. Voilà, c'est pas le même, le même rapport qu'on a au cinéma. Je pense que c'est quelque chose, l'utilisation de la musique classique et de tout le répertoire classique, que ce soit opéra ou introduire dans un film des moments de musique classique, c'est quelque chose dont le cinéma et les cinéastes ont toujours été très prudents, parce que pour plein de raisons, parce que le cinéma était un art très populaire, parce qu'il y avait une image de toute façon réaliste qui fait que l'apport de la musique classique a toujours été très rare. Je pense que, enfin moi c'est mon avis personnel, hein, après peut-être je me trompe, je pense qu'à un moment donné on a quelqu'un qui a été assez culotté pour se dire et si on essayait de que le cinéma soit digne de ça, c'est-à-dire soit à la hauteur de ça, soit à la hauteur d'un opéra. Et Daniel Toscan-Duplantier, quand il va mettre en scène, enfin produire les films de, le film de Lozay, par exemple, Don Giovanni, donne les moyens qu'aucun producteur n'aurait donné, parce qu'ils se sont dit un jour, jamais ça marchera, personne n'ira voir un opéra filmé, un opéra c'est sur scène, ridicule, ça va s'effondrer, ça va pas marcher. Et lui, il a osé le faire, et il a mis les moyens pour le faire, il a trouvé les talents pour le faire, et le film a trouvé son public et a été à la hauteur d'un opéra. Et je pense que c'est au départ, c'est pour moi plus un pari que d'aller attraper un public de la comédie musicale dont on sait qu'il sera, qu'il sera captif d'avance, réceptif à ça. Maintenant, bien entendu, s'il le fait dans les années dans les années 80, fin des années 90, début des années 90, c'est aussi parce que la comédie musicale n'existe plus et qu'il y a une place à prendre dans l'univers de la musique. Et du répertoire musical. Hein, si la comédie musicale avait été le genre numéro un dans les années 80, avec toute sa frivolité qu'on connaît, comme elle existait, peut-être que jamais ils se seront dit un opéra trouvera son public. Donc c'est aussi des mouvances. Hein, aujourd'hui ça a un peu redisparu au cinéma en tout cas, alors que ça marche très bien sur scène, qu'on a nos propres musicals, hein, nous maintenant. Les Misérables, tous ceux qui ont Notre-Dame de Paris, etc., que ça fonctionne très très bien. Mais moi c'est l'analyse que j'en ferai, c'est sur la prudence, hein, sur des cinéastes à utiliser le répertoire classique. Bien sûr, toujours. Enfin, j'essaye en tout cas de le faire. Le seul obstacle à ça, c'est le peu de temps que j'ai. À chaque fois, mais j'essaye de le faire. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire, par exemple, avec l'extrait avant qu'on le voie, avec l'extrait du Chanteur du Dessus, mais surtout avec Chantons sous la pluie. On est revenu, sur le début du film, sur le début de l'extrait, et on a vu comment Jane Kelly, dans sa mise en scène, se crée sa propre scène pour être seule en scène, en évacuant les figurants. Il y a aussi des genres ou des réalisateurs dont ça se prête plus ou moins que d'autres. Voilà. Donc après, c'est aussi un dosage, hein, entre moi, il est très important pour moi, mais là aussi, c'est pareil, hein, c'est ma façon de faire, de que le public s'ennuie pas, de trouver un dosage entre justement l'analyse qui peut être très vite pénible, parce qu'on n'aime jamais trop. Alors après, dans le cas d'une formation. C'est autre chose. Hein. Là, bien sûr, il faut insister et voir ça en détail. Mais dans le cas comme ça d'un rapport à un public occasionnel, c'est important pour moi de à la fois justement de comme je le disais tout à l'heure de remettre tout à zéro, mais à la fois de pas sortir des termes d'analyse ou des choses trop compliquées, qui tue un peu le charme. Et en même temps, c'est pas, en tout cas, pour certaines conférences, ça s'y prête beaucoup plus que d'autres, l'analyse de films. C'est vrai que l'année dernière, on a fait Stanley Kubrick, par exemple. Donc là, on a un cinéaste où on a un couloir d'analyse, hein, sur la structure, la composition du cadre, etc. Donc là, on s'est beaucoup plus intéressé au travail filmique. Alors selon certains metteurs en scène, par exemple, on a fait John Ford, c'est vrai qu'il pose les codes de la narration classique au cinéma, donc éventuellement on peut en dire deux mots, mais que quand on va en aborder John Ford, on l'aborde plutôt par rapport au thème qu'il développe dans le cinéma. ces thèmes très, très universels qui sont la famille, la loyauté, la fidélité, le courage, à travers un genre qu'est le western, mais qui finalement sont des thèmes universels qui pourraient s'appliquer dans plein d'autres genres de films. Et comment est-ce qu'il développe ces thèmes et comment est-ce qu'il... tout dépend des cinéastes. C'est pas la même façon à chaque fois d'aborder du point de vue de l'analyse, dans ce dont vous me demandez.
Enfin, donc, par rapport aux préoccupations qui sont les nôtres ici sur la formation, donc à l'enseignement de l'histoire des arts, donc là on voit bien tout ce qui est le côté notion de genre, la contextualisation, les références, les pistes esthétiques d'analyse, etc. Donc tout ça, ça peut vraiment être intéressant pour nous du point de vue de la formation. Là, j'aurais soulevé une autre question, c'est sur la modalité. Disons qu'il y a la culture du ciné-club, donc le débat après le film, etc. Là, on n'est pas du tout dans le même modèle, hein, puisque c'est une conférence avec des préoccupations, donc pédagogiques là-dessus. Donc peut-être essayer de parler aussi de cette culture du ciné-club, si c'était possible. Qu'est-ce qui se passe dans ces... Enfin, comme si c'était dans l'imaginaire de chacun d'avoir le débat après le film, enfin... donc le film qui a besoin d'être développé dans les esprits de chacun.
Ça, c'est une toute autre façon d'aborder le cinéma, mais qui est tout aussi riche. C'est très très important. Donc ça, moi, c'est aussi quelque chose que je pratique beaucoup à l'Institut Lumière, un peu, mais aussi beaucoup à titre personnel, puisque j'interviens dans les lycées dans les cinémas de la région Rhône-Alpes, il y a présentation du film et débat. Voilà. Et alors c'est complètement différent. Évidemment, puisque là, on va pointer du doigt un film. Alors après, ça ne nous empêche pas de donner des pistes très générales sur le genre auquel appartient le film ou sur le réalisateur, son style, etc. Mais cette idée du ciné-club, je le vois parce qu'il y a de plus en plus de demandes, de la part des salles de cinéma, de composer ces séances. C'est-à-dire de ne plus simplement... Mais il s'agit toujours de films du patrimoine, c'est-à-dire que ça arrive très peu pour les films récents. Je l'ai fait pour le dernier Woody Allen, et c'était Woody Allen, c'est-à-dire qu'il y avait, au-delà du film qu'on a vu, il y avait tout le passif de Woody Allen dont on a parlé, où on a repéré justement dans ce film, qui est plutôt un film mineur dans sa carrière, justement quelles étaient les obsessions, quelles étaient les choses qu'on retrouvait dans les photos de Woody Allen. Donc on intervient dans ce type de rapport-là au cinéma, plutôt sur des films du patrimoine. Et ça, c'est quelque chose qui revient, qui s'était perdu, qui était très à la mode dans les années 70, qui s'est perdu complètement, et puis qui revient aujourd'hui complètement... on ne va pas dire que ça revient à la mode, mais il y a beaucoup de demandes pour accompagner désormais le film d'un repère pédagogique, d'une discussion... à l'issue de la séance. Donc ça se fait beaucoup. Dans les conférences ou sur les films qui m'arrivent de présenter, c'est vrai que j'aborde, moins sur les films, mais en tout cas sur les conférences, c'est vrai que j'aborde pas le cinéma contemporain, j'aborde pas le cinéma d'aujourd'hui. Je reviens sur... C'est ma spécialité, si vous préférez. Je suis pas un très grand cinéphile, c'est-à-dire que je suis pas un boulimique de cinéma. Je pars tous les films qui sortent en cochant le journal tant que je les ai pas vus. Je suis pas un gros consommateur je suis plutôt quelqu'un qui fait sa culture avec l'histoire du cinéma, qui aime bien voir les. Enfin, je m'alimente beaucoup d'anciens films, ça c'est la première chose. Donc ça c'est ma formation personnelle à ça. Et la deuxième, c'est d'abord que d'autres le font très bien. C'est-à-dire qu'on a énormément d'intervenants, nous à l'Institut Lumière, mais comme partout, d'intervenants, d'universitaires, même d'auteurs de livres ou de journalistes qui interviennent justement dans ces domaines-là de conférences et sur des films contemporains qui ont beaucoup plus de connaissances que moi. Donc j'empiète pas sur ce terrain. Et j'ai une conviction personnelle qui est que c'est très très difficile d'avoir un regard d'historien objectif tant qu'on n'a pas passé une certaine période. Que des films ont eu des impacts absolument énormes dans l'histoire du cinéma et sont complètement oubliés aujourd'hui. Moi, à l'époque où Les Nuits Fauves sont sorties, par exemple, de Cyril Collard, qui est un film qui parlait du sida, on croulait sous la demande d'intervention de ce film. Plus personne ne connaît ce film aujourd'hui. Mais plus personne. Il n'y a pas un spectateur, qui ne sera pas un spectateur qui l'a vu à l'époque, ce film est passé complètement dans l'oubli de l'histoire du cinéma. Alors que ce film... Bon, c'est un exemple très précis, je prends toujours celui-là, parce que ça a été un des plus... je me souviens de que l'Institut Mire croulait sous les demandes d'intervention, de débat, que c'est un film choc. Alors, je ne remets pas en cause la qualité du film, c'est pas ça dont je parle. Je dis simplement que l'histoire du cinéma trie énormément et que à partir du moment où on aborde l'histoire du cinéma comme je le fais, c'est-à-dire sous son angle « redéfinissons les bases d'un art », j'ai besoin du recul historique. Je ne peux pas m'engager, par exemple, pour parler de la comédie musicale, je ne peux pas m'engager encore aujourd'hui sur Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Je n'ai pas encore les clés. J'ai un film que j'aime beaucoup. Je n'arrive pas à savoir si c'est un film qui restera dans l'histoire du cinéma, qui sera important dans l'histoire de la comédie musicale pour les futurs cinéastes de comédie musicale. Est-ce qu'ils s'inspireront du film de Baz Luhrmann? Est-ce que ce film-là est la fin d'une époque, le début d'une autre? Est-ce que c'est un ovni et j'ai pas ce recul-là encore. C'est pour ça que j'ai besoin, moi, dans mon rapport à l'histoire, d'avoir une bonne vingtaine ou une trentaine d'années d'écart, quoi. J'ai de mauvais... Enfin, moi, effectivement, dans ces dispositifs-là, on ne fait partie que de lycéens au cinéma. On ne fait pas partie de... Sur celui d'école et cinéma, alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, j'entends beaucoup dire que les enseignants ont du mal à trouver des formateurs, enfin, voilà, alors je sais pas. Je sais que la formation est assez solide en lycée, en cinéma. Collège de cinéma, je crois aussi. Mais moi j'avais entendu dire que les instituteurs se plaignaient, enfin les enseignants en école se plaignaient d'avoir du mal, quand dans le dispositif école et cinéma, à avoir des gens qui viennent soit en formation enseignant, soit venir parler aux élèves du film. Enfin, voilà, qu'il y avait, à part la projection, il y avait. Le dispositif était un peu pauvre autour de simplement la projection. Maintenant, peut-être que c'est pas vrai du tout, ça, je sais pas.
Alors, si je peux me permettre, j'intervenir là-dessus, parce que justement, dans un dispositif de formation de professeurs des écoles, donc du premier degré, d'ailleurs, monsieur était à la formation, il y avait donc une thématique sur de La Belle et la Bête de Madame le Prince de Beaumont à La Belle et la Bête de Cocteau. Et ils ont eu un problème de formateur, justement. Et voyant, enfin, le responsable donc du dispositif, voyant que j'avais écrit un livre sur La Belle et la Bête, et ben, finalement, on va lui demander. Mais ça nous a semblé original de faire appel à une littéraire pour parler du film. Alors, bon, je ne sais pas ce qu'a donné la formation, mais je vois monsieur ici, donc je n'ai pas totalement déplu. Mais effectivement, je crois qu'il y a ce problème quand même au niveau de la formation, peut-être. Hein. Et d'autant plus qu'il y avait... Bon, on en a déjà parlé pas mal pendant ces deux jours précédents, mais il y a aussi un problème bon, au niveau de la formation, de crédit. Voilà, on a des problèmes. Bon, moi, c'est pas un problème puisque je suis gratuite étant dans une institution, mais il y a quand même ce problème-là. Voilà.
Non, pas du tout. Non. Parce que là, on c'est la même chose, on tombe sous...
Et avec votre présence.
Ah oui.
Mais il est tout seul. Le problème, c'est que, voilà, oui. Vous n'êtes qu'un. Il faudrait cloner...
oui. Non, ben oui, c'est ça le problème. C'est uniquement ça.
Excusez-moi, mais par contre, est-ce qu'on peut simplement avoir la voix off?
Non.
On peut se faire sur un cerveau d'image, c'est ça les images. Non mais les images, on peut les construire aussi. Hein.
Oui, bien sûr. Mais j'ai une équipe avec qui je travaille donc régulièrement, aussi bien avec des étudiants de cinéma en stage que sur des contrats à durée déterminée, que avec mon équipe. Voilà, il nous arrive beaucoup de parler de ça et justement de voir comment aborder, parce que là pour le coup mon équipe travaille avec les scolaires en direct sur des thèmes qu'on peut nous demander. Et par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que moi je leur dis souvent que la transmission elle passe aussi pas forcément par quelque chose qu'on leur impose, c'est-à-dire par rapport à ce que vous venez de dire, tel ou tel film. Je reprends l'exemple ici, si on travaillait autour de la comédie musicale, mais de tel ou tel film, mais que pour un autre enseignant, pour un autre conférencier, pour quelqu'un d'autre, on peut dire la même chose sur un autre extrait qui, pour la personne qui va le présenter, sera beaucoup plus pertinent ou c'est quelque chose qui, de son point de vue, fera qu'il préférera travailler sur tel ou tel extrait que sur d'autres, et que c'est pas forcément, c'est pas codifié. Voilà, moi, tous ceux que j'ai choisis, on va dire, à part peut-être le moment où Gene Kelly, où il y a ce moment-là, c'était un moment clé. On aurait pu tenir le même discours en ne voyant pas les mêmes extraits, en intervertissant les extraits, etc. Donc, c'est important aussi pour moi qu'à partir du moment où un enseignant, on va dire, a l'envie de travailler tel ou tel sujet, à partir du moment, moi je parle du cinéma, qu'il puisse faire partager aussi aux enfants ses propres, enfin que ce soit un mélange d'une formation, de quelque chose qu'on lui a appris, mais en même temps de son expérience personnelle, enfin. Qui peut-être sera sur des films plus récents, sur d'autres genres de films. Monsieur parlait tout à l'heure du Don Giovanni, pourquoi pas l'utiliser, parce que ça, c'est un film que vous aurez vu, que vous connaissez bien, donc vous aurez plus de facilité à en parler. Enfin, pour moi, ça passe aussi par ça, et c'est-à-dire. Donc, tout ça pour dire quoi? Que quand ils prennent le relais, ces gens-là avec qui je travaille, je leur dis surtout pas, ne faites pas un copier-coller de moi. N'arrivez pas en disant Fred Astaire faisait ci, faisait ça. Emparez-vous de la comédie musicale, revoyez des films. À quel moment vous avez trouvé ça sublime? Essayez d'analyser pourquoi vous avez trouvé ça sublime. Vous allez trouver des codes d'analyse, des codes, et vous allez les transmettre aux élèves, et ils vous écouteront bien plus parce que vous allez leur parler de quelque chose que vous avez aimé, et vous allez être vachement plus convaincant que si vous essayez de faire un copier-coller de ma conférence. Donc, on essaye d'apprendre ça aussi au guide du musée. Non, exactement, mais... c'est oui. Le problème. Bien sûr, c'est ça qui est problématique.
Il y a, alors je ne sais plus le titre du logiciel, mais sur Pompidou, dans la partie cinéma, en recherche, ils ont mis en place un logiciel dont les enseignants peuvent se servir et qui permet justement de faire une captation d'un extrait, enfin de venir de plusieurs façons. Ça correspond un petit peu à Movie Maker, mais en autre chose. Voilà. Et il y a plein de sites ressources aussi qui permettent d'accéder à des extraits de films. Et nous, en tant qu'enseignants, de toute façon, à partir du moment où ça reste dans le cadre de l'enseignement et de la classe, on peut projeter.
On disait sur ce que disait Martine et aussi Fabrice, et donc je suis David Gauthier des affaires culturelles de l'ENS, et donc sur la question des outils, ça pourrait être l'occasion de construire ces outils ensemble, parce que Thierry Frémaux est professeur associé à l'école, et il travaille sur la cinéphilie avec nos élèves, et de construire un certain nombre de supports ensemble, avec la diffusion des savoirs de l'ENS et l'expertise de l'INRP, pour permettre cette diffusion hors académie.
Ça fait complètement... Oh oui, ça fait... bien sûr, c'est tout à fait des projets sur lesquels nous, on peut
sans
être...
Sans être un copier-coller, justement, de la qualité de la conférence. Mais
Là, ça serait une idée, par exemple, au niveau de la formation, avec toutes les personnes qui sont ici. Donc, choisir une comédie musicale, par exemple, une comédie musicale, et essayer de la monter en formation. Et après, essayer de se retrouver, de dire, bon, voilà, à mon niveau, ce que j'ai fait, vous la soumettre en expertise, peut-être éventuellement avec un professeur de l'ENS aussi, pour essayer d'avoir différents discours, un historien, etc. Et effectivement, créer des outils de cet ordre-là. En tout cas, déjà au niveau de l'échange d'une formation. Enfin, ça serait peut-être un outil de formation.
Oui, voilà. Absolument.
Là, c'est la grande inquiétude, en fait. Cette formation-là, effectivement. Donc, on sait qu'il y a des ressources, quoi, mais les gens sont éclatés un petit peu partout en France. Vous êtes de Bretagne, vous êtes... Voilà, donc les gens viennent de Lille, c'est de toute la France.
Oui, d'accord.
Donc, après, le risque, c'est effectivement de dire, bon, ben, on va aller sur Internet, on prend tout ce qu'il y a et c'est tout. Mais peut-être qu'on peut essayer de relever le pari, par exemple en prenant ce sujet, admettons la comédie musicale, et chacun en disant, bon, moi je dois former des professeurs d'école, professeurs de collège, professeurs de lycée, ou voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment on va essayer de construire? Voilà, et essayer de construire, et après on pourrait essayer de voir ce qu'on a fait ensemble, enfin comme on faisait avant aussi pour monter des formations, la monter à plusieurs éventuellement, mais essayer de créer ces outils-là. Bon, la comédie musicale américaine, c'est un exemple, on pourrait faire sur d'autres thématiques. Mais c'est vrai qu'il faut prendre un petit fil, sinon on n'y arrivera pas. Enfin, si on veut avoir une formation générale, on n'est pas personne n'est spécialiste. Voilà. Et on ne peut pas demander tout à l'Institut Lumière, par exemple, à Fabrice Calzettoni, de dire le spécialiste, on n'aura jamais le spécialiste pour nous parler de ça, et donc on n'aura pas la culture. Donc nous, on doit notre
ce que nous on transmet à travers cette idée-là de transmission de l'histoire du cinéma, c'est ce qui en fait ça, ce qui est incontournable, ce qui en fait son ossature. Voilà. Et après, ça peut s'éclater de mille manières différentes. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye enfin, en tout cas, l'idée centrale de formation, voilà, qu'on essaye d'appliquer. Alors là, il se trouve que c'est le grand public, mais c'est qu'on en connaisse l'essence même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que c'est une comédie musicale et pas autre chose. Voilà. L'exemple que j'ai pris en disant faites attention, on parle de comédie musicale, pas de films musicaux. C'est pas parce que quelqu'un se met à pousser la chansonnette dans un film sur un orchestre qu'on a une comédie musicale. C'est pas si simple que ça. Et après, boum, Vincente Minnelli, on voit comment est-ce qu'il transforme, etc., etc. C'est-à-dire que c'est important qu'on ressorte avec une ou deux, on va dire, au moins, idées centrales qui permettent après d'aborder le sujet, mais au moins de ne pas se disperser, voilà, de pouvoir cerner le sujet correctement. Et après, voilà, après, c'est chacun est libre à lui d'apporter sa propre expérience.
Alors, peut-être une petite remarque avant de passer la question. Mais hier, à la sortie de la conférence, on a discuté un petit peu entre nous, puis on disait, mais la comédie musicale américaine, on avait l'impression que c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et en fait, il y avait plein d'images, enfin, plein de choses qui étaient présentes dans notre mémoire. Et ouais, à l'oreille aussi. Donc, c'est curieux aussi, il y a cette culture cinématographique que l'on a, mais en fait, on se dit ignorant de cette culture, parce qu'on croit, enfin, on n'ose pas en parler, on n'ose pas du coup transmettre. J'avais envie de faire le parallèle un petit peu avec la littérature, hein, puisque bon, moi, ma matière, c'est la littérature. C'est toujours frustrant de prendre un extrait de texte. J'ai envie de lire le livre en entier à chaque fois, et je me dis, bon, je peux quand même pas lire. Je ne peux pas le lire en classe. Par contre, je me dis qu'au niveau du cinéma, on a encore dans les mentalités l'idée de la projection du film, du ciné-club, justement, cette culture-là. Et donc, peut-être qu'on pourrait aménager, je vois le film en entier, il y a retour après en classe avec analyse, visionnement d'extraits, etc. Mais il faudrait peut-être travailler non plus au niveau de la classe, mais au niveau de l'école ou au moins d'un cycle, etc. Et on peut regrouper, travailler l'aménagement de l'emploi du temps, travailler sur l'aménagement des classes. Mais si on regroupe, je sais pas, 3-4 classes dans une salle, on pourrait peut-être travailler de cette façon-là.
En compromis, il y a le court-métrage.
Oui, alors bon, entre le court-métrage et l'haïku, hein, c'est un peu dur quand même la culture.
Mais je crois que.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette expertise, de cette science, comment vous construisez des principes que vous avez sans doute élaborés avec l'expérience, avec peut-être des variantes selon les publics, je ne sais pas. Enfin, voilà.
Pour essayer de répondre à votre question, le travail sur le plus long terme, hein, c'est-à-dire celui où effectivement les choses évoluent le plus, est celui qui se rapproche le plus de ce qui fonde le langage en fait du cinéma. Ce qui fait, là, on dépasse les codes du genre, c'est de ce qui fait la spécificité du cinéma, c'est-à-dire ce travail permanent qu'il y a à faire pour définir ce qu'est le cinéma, c'est-à-dire essentiellement la différence qu'il peut y avoir entre le cinéma et la littérature, entre le cinéma et le théâtre, entre le cinéma et la photo, tous ces arts qu'il emprunte, parce que c'est Kubrick hein, qui disait le cinéma n'a aucune identité propre, il a emprunté à tout, à la littérature, au théâtre, à la peinture, à la photo, etc., etc. Sa seule spécificité, c'est le montage. Donc, c'est ce qu'il a inventé, en fait. À partir de là, se posent les bases de ce qu'il y a à transmettre de manière la plus importante, qui est justement qu'est-ce qui fait l'identité du cinéma. Donc, moi, mon travail depuis une vingtaine d'années, il tourne essentiellement autour de l'art du montage. Et s'il s'adapte à des nouveaux publics, c'est-à-dire aux nouvelles générations, il est lié à ce code d'écriture. Je pense que quand on forme quelqu'un au cinéma, que ce soit un public adulte, que ce soit un public d'adolescent, de jeunes. À partir du moment où on transmet l'idée de montage, c'est-à-dire qu'elle est, que le cinéma invente tout à partir du montage, que c'est son langage propre, et qu'à partir du moment où on a compris la force et la puissance de l'expressivité du montage, et que donc du coup on peut faire la différence entre le cinéma et la littérature, et le théâtre et la photo, etc., et qu'on lui trouve son identité propre, c'est-à-dire à ce moment-là on a saisi l'essentiel de ce qui donne les outils pour travailler. Moi j'ai souvent l'habitude de dire que pour qu'un élève lise un livre, il faut lui apprendre à écrire et à lire. Si peu, non, il ne peut pas lire le livre. Pour voir un film, il n'a pas besoin, comme c'est oral, il n'a pas besoin d'apprendre à lire et à écrire. L'art du cinéma, le cinéma, de 1898, on va dire, une fois qu'on est sorti des films Lumière, hein, de l'éblouissement technique de reproduire la réalité, quand on a commencé à raconter des histoires, donc de 1898, on va dire, à 1910-15, à partir du moment où sont arrivés les premiers grands auteurs, justement ceux qui ont travaillé sur le montage, les Edgar Vertov, les Eisenstein, les Griffiths, les Chaplin, les Renoir en France, Feuillade, etc., on a une population d'analphabètes qui va au cinéma. C'est l'art des analphabètes. C'est l'art de enfant nous raconte une histoire alors qu'on ne sait pas lire et écrire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ça n'empêche pas qu'il y a une écriture et qu'elle existe. Et à partir du moment... Et donc, il saute l'étape de l'apprendre à lire et à écrire le cinéma. Et que écrire le cinéma, c'est pas simplement savoir poser une caméra, savoir réaliser un travelling, etc. C'est se dire la question toute bête de pourquoi le plan dure. Pourquoi le plan dure cette durée? Pourquoi est-ce qu'on a mis ce plan à côté de ce plan? Et surtout, pourquoi est-ce que... Ça, c'est la question de John Ford, hein, reprise par Godard. Pourquoi est-ce qu'il a mis sa caméra là? Et s'il l'a mise ici, c'est parce qu'il y a un regard, il y a un point de vue. Et si déjà on arrive à trouver ça, on a saisi l'essentiel. Et à partir de là, on peut partir dans tous les sens. On peut partir sur sa propre culture, sur les genres, sur tel réalisateur, sur... C'est ça qui leur manque, en fait. Et donc... Je sais pas, j'ai aucune idée là si je réponds réellement à votre question, mais en tout cas sur moi, mon travail sur le long terme, mon travail qui n'est pas voilà sur la rencontre d'un public occasionnel, sur un genre qui m'est cher, voilà, que j'aime bien, comme la comédie musicale, où j'ai envie de transmettre quelque chose, etc. Sur mon travail de fond sur le cinéma et sur ce que j'essaye de transmettre aux élèves. Donc là, c'est un, là pour le coup, c'est réellement ce qui pourrait correspondre à des cours de cinéma, puisque je travaille beaucoup avec des élèves, notamment dans le supérieur, mais aussi beaucoup de lycéens. Donc c'est une journée de formation et on ne parle que du montage, c'est-à-dire qu'on travaille essentiellement sur des extraits. Et ça, c'est un travail que je renouvelle en permanence, parce que je fais très attention de partir de leur cinématographie, c'est-à-dire de partir de ce qu'ils connaissent et tout simplement de leur dire quoi au bout du compte. Mais regardez, ce film-là, il a 50 ans de moins, il est peut-être en noir et blanc, il est peut-être en couleur, mais le cinéaste que vous venez de voir là, il n'a rien fait d'autre que ce que faisait celui-là il y a 50 ans, parce que le montage, la manière de s'exprimer, n'a rien changé. Vous avez beau rajouter des effets spéciaux, vous avez beau remplacer Gary Grant par Matt Dillon, etc., vous avez beau mettre des images de synthèse à la place d'animatronique, vous avez beau, etc., etc., fabriquer les couleurs à l'ordinateur alors qu'il y avait le Technicolor, vous avez beau faire tout ça, vous avez toujours la même façon de présenter les choses, la même manière. Et ça, c'est la structure même du récit cinématographique. J'ai gagné une partie de mon travail à partir du moment où je suis arrivé à transmettre ça. Et là, on y passe du temps. Et là, je me réadapte complètement. Je pense que si je fais la comédie musicale dans 10 ans, à part si effectivement j'ai découvert le film dont je pense qu'il va, je m'arrêterai toujours à la même période et je prendrai toujours les mêmes extraits de films. Ça ne bougera pas. Si vous voulez. Essayer de transmettre quelle est la spécificité même du cinéma, quelle est son identité, ça, c'est un travail qui demande à faire très attention au public auquel on a affaire. Alors que si j'aborde l'idée de montage en balançant d'un coup un film d'Eisenstein, c'est sûr qu'on ne va pas les accrocher. Hein, ça va être trop éloigné d'eux. Par contre, si en partant de ce qu'ils connaissent eux, on remonte à Eisenstein et on arrive en disant bah, je le fais par exemple pour la taille des plans. Je leur montre que souvent les séquences commencent par des plans de grand ensemble ou d'ensemble, qu'on se rapproche progressivement de l'individu et qu'on ne filme pas en gros plan, qu'on n'obtient pas les mêmes effets quand on filme en gros plan que quand on filme quelqu'un en plan large, etc. On voit des extraits de films qui sont très contemporains. Et on voit le début de l'horreur de Nosferatu de Murnau, et on s'aperçoit qu'il commence son film exactement pareil. C'est-à-dire que on voit que ce langage-là, qui crée l'essence même de comment tout simplement raconter une histoire, eh bien, ça, c'est quelque chose qui est l'essence même du langage cinématographique. Et ça, c'est un travail sur lequel moi je travaille en permanence. Voilà, qui fait partie justement qui doit se réactualiser, qui doit tenir compte des nouvelles générations, donc voilà, et qui moi m'oblige. Alors ça m'oblige pas toujours, ça m'oblige, on va dire, de temps en temps, d'aller voir des films que j'ai pas vraiment envie de voir, pour justement faire attention à ne pas décrocher de ce qui est leur culture, pour bien leur montrer que c'est pas quelque chose d'étranger, c'est pas quelque chose qui n'existe plus, et que c'est surtout quelque chose qui a influencé, où il y a une filiation, et où ce cinéaste-là qu'ils aiment tant n'existerait pas si il n'y avait pas eu tel. Et ça marche aussi pour les acteurs, il y a des tas d'acteurs qui prennent le modèle de. Et donc c'est de cette manière-là que j'essaye de fonctionner, mais je garde comme base de travail cette idée de transmettre la spécificité du cinéma, qui est le montage. Et effectivement, quand ils ont compris, alors à travers plein d'exemples, de passage d'un plan à un autre, on voit tout ce qu'il est possible de faire. Il y a beaucoup de choses qui passent par là. Vous avez tout à fait raison. C'est une autre manière d'aborder la pédagogie du cinéma. Nous, c'est pas un oubli, c'est un parti pris. C'est-à-dire qu'on est plutôt basé sur l'idée cinéphilique, entre guillemets, développée par Truffaut, qui est qu'on apprend plus en voyant les films et en cherchant où était la caméra, plutôt qu'en étant en pratiquant. Voilà. Les deux sont liés, les deux existent, les deux sont importantes. Nous, c'est un parti pris. Dans ce que vous dites, ce qui est très très important pédagogiquement, c'est de faire exister à leurs yeux ce qui est absolument terrible à comprendre quand on ne se sert que de films. C'est ce qu'on appelle la continuité spatiale et temporelle. C'est qu'on a tout mal, même s'il y a 10 plans, ils ont l'impression que ça se passe en même temps. Or, entre chaque plan, il y a 2 semaines qui ont pu se passer. Et pourquoi il y a 2 semaines qui ont pu se passer? Parce qu'on passe d'une pièce à une autre, parce qu'il faut transporter le matériel, etc. Or, eux, c'est lisible, parce que justement, les metteurs en scène font très attention à ce que le changement, quand on parle de cinéma classique, évidemment, à ce que le changement de plan ne se voit pas, il soit invisible, qu'il intervient à un moment précis où, justement, il disparaît dans la continuité du film. Donc, dans ce travail-là que vous faites, c'est très, très important, parce que ça leur fait prendre conscience de la difficulté de mettre un plan derrière l'autre, et où se posent évidemment tous les problèmes de raccord, etc. Et ils se rendent compte de la difficulté technique, pratique, et du choix du plan, évidemment, puisque eux sont confrontés à ça, c'est-à-dire où poser la caméra, cette fameuse question essentielle qui est le fameuse phrase de John Ford, donc il n'y a qu'un seul endroit pour poser la caméra, et il faut le trouver. C'est vrai que le découpage, c'est ce qui est le plus... difficile à faire dans le travail avec les enfants, parce que c'est vrai qu'ils ont toujours tendance à faire le plan d'ensemble où tout va se passer dans le même plan pour éviter justement le découpage. Et c'est très très important, cette notion justement de choisir différents angles et de découper pour leur faire sentir ce qu'est le montage, ce qu'est la vraie expression du cinéma. Parce que c'est vrai que on peut très très vite tomber dans la facilité en filmant en un seul plan une séquence, alors qu'on peut facilement la découper et que c'est beaucoup plus difficile. Enfin, à ce moment-là, et que ça pour le coup, ça leur apprend plein de choses. Mais c'est vrai que c'est un mélange de c'est une combinaison de tout ça qu'il faut savoir, à mon avis, doser pour faire un habile mélange, quoi. Mais tout est utile à ce niveau-là, surtout au niveau des écoles.
Il y a le risque là aussi au niveau de la formation des enseignants, du moins pour les enseignants, c'est que justement le cinéma est encore lié au plaisir, et donc qu'il y a, je dirais que les enseignants vont rajouter du contenu, donc utiliser un film pour passer justement par exemple de l'histoire, ou oui, pour illustrer, avant d'aborder une œuvre littéraire, très souvent, alors qu'en fait la spécificité c'est ce langage technique. Donc peut-être que le but de la formation, ça serait justement de mettre l'accent sur ces problèmes techniques. Voilà.
C'est le parti pris des séances cinéma, ils vont des films qu'ils n'iront jamais voir si on leur montre pas. Peu importe si ça leur plaise ou pas, ça leur fait une expérience. Ça, c'est moins lié. Les réactions dont vous parlez, à mon avis, sont moins liées au film lui-même qu'à un rapport au cinéma qui évolue. Le cinéma se popcornise même quand vous allez voir un film aujourd'hui, enfin moi je sais que c'était très très rare hein, quand voilà, j'allais au cinéma dans les années 80 que le public parle en salle, désormais on entend les gens parler, enfin bon. C'est quelque chose que la télévision, que voilà, que enfin c'est une évolution. Bon, je trouve qu'en France, on est quand même encore assez bien servi du point de vue du voilà du respect de l'œuvre, de voilà. Du... Mais ça, c'est un. Enfin, ces élèves-là qui ont ce comportement-là, je sais pas quel film il faut leur passer pour qu'ils se taisent, quoi. Parce que moi, je vois des jeunes parler devant. Devant Avatar, devant donc voilà, on se dit mais qu'est-ce qu'il faut leur montrer pour que ça leur plaise du début à la fin. Après ça, c'est il y aura toujours une catégorie de voilà, mais je pense pas que ce soit trop lié. Je pense qu'un des élèves bien préparés voilà qui connaissent les règles de ce qu'est aller au cinéma, ben on est dans une salle, on se tait pendant 1h30, ouais, que ça plaise ou non.
De l'éducation, tout
simplement. Oui, ben je crois que ça, il y a beaucoup qui se tiennent de ça. Hein. Oui, il y a des mouvances. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, nous, on est très sensible à ça parce qu'on est le pays de la cinéphilie, on est le pays de la nouvelle vague du cinéma, de ceux qui ont inventé le concept de cinéma d'auteur et donc de cinéphilie. Et donc, il y a une tradition de la cinéphilie qui, même si ces cinéphiles-là ont disparu, hein, qui se transmet de génération en génération. Voilà. Donc, et ça, c'est très lié à la France. Hein. C'est vrai que quand vous allez en Angleterre, où les séances ne sont pas les mêmes. Aux Pays-Bas, par exemple, on interrompt le film, pas par de la pub, mais on coupe le film au milieu, systématiquement, pour que les gens sortent, aillent manger du pop-corn et reviennent dans la salle. Ça, c'est la tradition aux Pays-Bas, c'est comme ça, depuis toujours. Nous, on ferait ça, ce serait un véritable scandale, quoi. On voit bien de ce que ça a fait quand Berlusconi est arrivé à la télé et a commencé à couper les films. Il y a vraiment eu des réactions violentes en France. Donc ça, c'est lié aussi à cette idée-là que nous, on a du cinéma. On a on est un des rares pays où vraiment le cinéma est considéré comme un art, où il y a un respect de l'œuvre, etc. Donc c'est d'autant plus dommage que cette tradition du respect de l'œuvre se perde un petit peu. Mais vous avez raison, moi, pour moi, c'est essentiellement une question d'éducation. Hein. Alors là aussi, c'est un parti pris. Donc là, je peux vous répondre très concrètement, puisque la région Rhône-Alpes est le seul dispositif à avoir une sélection régionale. C'est-à-dire que normalement, une sélection nationale hein, qui est diffusée dans toutes les régions. Alors, je vous dis ça, peut-être maintenant, il y a une autre région qui le fait, j'en sais rien. Mais en tout cas, pendant très longtemps, on va dire, encore peut-être aujourd'hui, la région Rhône-Alpes est la seule qui mettait à la disposition des enseignants de la région Rhône-Alpes une sélection donc régionale. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 6 films, vous en aviez 9, dont 3 qui avaient été sélectionnés par la région et qui n'étaient pas dans les autres régions, en plus, voilà, pour augmenter le choix. Parce qu'ils avaient les moyens de le faire et tout. Donc on participe, nous on est membre du comité de pilotage de cette sélection de 3 films. Et dans ce comité de pilotage, il n'y a que des universitaires. Donc ça répond à votre question. Bah, ça vous répond à votre question, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que la sélection de ces 3 films, c'est une sélection extrêmement pointue de films qu'ils montreraient à leurs étudiants. Voilà. Alors après, est-ce que les lycéens n'ont pas le droit de les voir? Tout le débat commence là. Mais très concrètement, je peux vous le dire, il n'y a que des universitaires.
Voilà. Pour la programmation de quelle...
Pour la programmation des 3 films.
Des 3 films
de lycéens au cinéma. De la région. Voilà. Alors, il y a un film, bon, ça se comprend un petit peu, parce que c'est normal que la région diffuse son patrimoine, entre guillemets. Il y a un, sur les 3 films, il y en a un qui est obligatoirement un film de Rhône-Alpes Cinéma, plus 2 autres. Oui, mais c'est aussi pour ça que ce sont des universitaires, c'est parce que c'est eux qui font pour la région les livrets.
Oui.
Et c'est sans viser. Ah non, pas du tout, je parle simplement du niveau d'exigence. Qu'on donne à la sélection. Voilà, c'est tout. C'est ce que je disais à la dame, c'est que c'est un parti pris, et moi je le respecte, c'est ils verront des films qu'ils ne verront pas autrement, qu'ils les comprennent ou pas, qu'ils les aiment ou pas, c'est pas grave, ça leur fait une expérience cinématographique, c'est important qu'ils voient ces films. Ça en touchera peut-être 1 sur 60. C'est important que cette expérience-là existe. Et elle existe de moins en moins. C'est-à-dire qu'effectivement, on va, là pour le coup, c'est social, hein, on va de plus en plus vers une société où on a tellement de choses à notre disposition qu'on va prendre ce qui est le plus facile et ce qui nous plaît le plus. Et c'est vrai que, on va dire, à l'époque où j'avais leur âge, comme la télévision, par exemple, nous imposait les films, eh ben, des fois, je me mettais devant un film et je voyais Psychose, Hitchcock, parce qu'il passait à 20h30 sur France 3. Et là, j'étais bien obligé de le voir. Or, maintenant, Psychose, on ne le voit plus à la télévision. Donc, si on veut voir Psychose, il faut aller acheter le DVD. Mais pourquoi on va acheter le DVD ? Pourquoi on va payer 19€ pour un film qu'on ne connaît pas, pour un truc en noir et blanc ? Alors qu'à l'époque, il n'y avait qu'un film, on le voyait, on nous l'imposait. Donc, si vous voulez, moi, je trouve que, juste pour terminer, et pour vous dire que loin de moi la pensée de dire que c'est une catastrophe, c'est justement cette idée-là, de leur dire, on va, par le biais de l'éducation nationale, on va leur imposer des films bah, qu'ils ne verront peut-être pas, qu'ils ne verront jamais si ça vient de leur...
Y compris pour les enseignants.
Y compris par les enseignants.
Il y a des parents.
Vous savez, si on prend l'année 86, à l'époque, donc l'époque où le bac cinéma va apparaître, hein, 86, voilà. Vous prenez 86, on va prendre le cinéma juste après guerre, donc les années 50, on a 36 ans de cinéma, vous doublez aujourd'hui. Ça paraît rien. 86, ça paraît tout proche. Et des cinémas qui paraissent très récents, des cinématographies qui paraissent très récentes par rapport. Pourtant, on double. Donc, forcément, il faut prendre ça aussi en compte. Hein. C'est qu'un jeune qui découvre le cinéma aujourd'hui a deux fois plus de films à découvrir que nous, on en avait à découvrir. Parce que le cinéma est un art très jeune. Donc, si vous éliminez tous les 90% de la production qui sont des films soit de propagande, soit des bleuettes, soit des romances, soit des qui n'ont aucun intérêt et vous regardez tout le reste. On avait très peu de films à découvrir, nous, très peu d'auteurs, par rapport à la richesse du cinéma aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Pour eux, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, moi, je vois avec mes propres enfants, vous imaginez bien que j'essaye de leur transmettre un peu des choses, et je me confronte à ça. À dire, il y a ça, mais 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 il y a ça. Bien sûr, bien sûr. C'est très important de conserver l'esprit cinéphilique avec leur regard à eux, hein, de ce qu'eux découvrent, de ce qu'ils aiment. Bien sûr, c'est très, très important.
Former les élèves, vraiment, qu'est-ce que c'est que les exposer à, comme on les mettrait au soleil pour bronzer. Enfin, bref. Mais je crois qu'il y a des questions de fond. Et c'est pas... on doit problématiser un peu plus loin que c'est une catastrophe. Ah non, c'est pas une catastrophe. Moi, la personne qui dit « il faut qu'il le voit, même s'il n'y en a qu'un qui en capte quelque chose », à supposer qu'il n'y en ait pas 55 qui fassent un rejet, une somatisation violente ou avoir... bon, bref, qu'on les braque, quoi, ou que ça déconsidère l'école, ou encore. Bon, que ça... moi, je crois qu'il y a une question de fond. Moi, élitaire pour tous, je suis d'accord hein, avec le slogan, c'est magnifique. Seulement, je constate aussi que les inégalités sociales devant l'enseignement, devant la culture, etc., elles se creusent depuis qu'on a acheté. Et non, c'est pas la faute au slogan, c'est pas la faute à vitesse, c'est pas, etc. Hein. Mais il y a le système qui avance, hein, qui fonctionne, et voilà. L'écart se creuse. Donc, il y a des questions de fond là derrière.
Alors, moi, les débats, j'en fais souvent, mais avec un public adulte. Je ne fais pas de débat avec les élèves. D'accord. Oui, bien sûr, j'en fais très souvent. Et c'est plus des techniques de communication, on va dire, qu'autre chose. Hein, parce qu'après, on a en face de soi un public où il y a toutes les sensibilités, où il y a tous les avis, il y a toutes les opinions, il y a toutes les réceptions possibles d'un film. Donc nous, on essaye tout de suite après, une fois que le film se termine, de donner des pistes, là aussi, en tout cas de donner des repères objectifs. Voilà, c'est-à-dire, même si on doit partir du râle et pâquerette, de partir au moins de deux ou trois données concrètes sur le film, sur l'œuvre, pour après se faire un peu, si vous voulez, ce qui est une espèce de transmetteur du cinéaste, c'est-à-dire de porte-parole, voilà, en disant le cinéaste a voulu faire ça, mais c'est vrai qu'on essaye de replacer, voilà, un peu objectivement dans l'histoire du cinéma, en donnant quelques pistes. Et puis après, forcément, ça suscite des réactions, des remarques. Et l'essentiel du travail dans le débat, en tout cas pour ce qui est de suivre à la projection d'un film, c'est, on va dire, à l'opinion qui va s'exprimer, d'apporter une nuance par rapport à nous, par rapport au savoir qu'on a, et qui peut éventuellement apporter une nuance ou une information complémentaire ou voire contredire même des fois. Il y a des mauvaises interprétations, mais qui ne sont pas dues à l'interprétation personnelle, qui sont dues à quelqu'un qui n'a pas la connaissance cette connaissance de l'artiste. Voilà, sur s'il a fait ça, c'est pas parce qu'il voulait dire ça, c'est parce que simplement il a eu ça comme expérience et il a voulu envie de la transmettre. Donc voilà, ce que vous avez ressenti là, vous l'avez peut-être ressenti comme ça, mais c'est faux. En tout cas, c'est pas comme ça que l'artiste l'a voulu. Lui, c'était son expérience personnelle. Il a pas. Voilà, c'est des choses un petit peu comme ça. Parce que il se trouve que on prépare le sujet, on s'est documenté, ou c'est quelque chose qu'on connaît d'avance. Donc voilà, parce qu'on est spécialiste d'eux, etc. C'est une œuvre qu'on connaît bien. Donc, mais bon, ça, je pense que ça recoupe n'importe quel débat autour d'une œuvre, que ce soit une œuvre littéraire ou une peinture. Voilà, on ne sort pas tellement de ce schéma-là dans les débats. Hein. C'est souvent des questions. Où, évidemment, bien entendu, les questions sur le sens. Donc, étant un peu spécialiste de Kubrick, voilà, à chaque fois que je fais un débat sur Shining, j'ai la question qu'est-ce que c'est ce plan final où on voit le tableau? Elle revient systématiquement, c'est partie des questions récurrentes, voilà, des espèces de nébuleuses autour de l'œuvre. Mais c'est la même chose. Je pense que c'est à travers un livre, un grand livre ou une grande peinture, il y a toujours des questions récurrentes. C'est le propre des grandes œuvres, hein, justement, que de créer comme ça un questionnement. Et nous, on essaye d'apporter une réponse, soit une réponse personnelle, soit une réponse très concrète, parce qu'il se trouve qu'on s'est documenté, qu'on sait que l'artiste a voulu faire ça. Alors, très souvent, on reste là aussi très prudent, c'est-à-dire qu'on respecte le goût de tout le monde et on dit, ben, après, chacun voit. Bon, c'est un peu comme ça qu'on essaye d'orienter le débat. Hein. Mais immédiatement, quand le film se termine, c'est à nous de. Enfin, ça se fait tout le temps. Hein. C'est-à-dire que c'est nous qui lançons les premières pistes à partir de la présentation. C'est-à-dire qu'on annonce des choses très succinctes, très courtes dans la présentation. Et ça nous permet de raccorder après en disant « Je vous ai dit ça au début, je n'ai pas voulu trop en parler pour que vous puissiez voir l'œuvre par vous-même, mais maintenant on va revenir dessus. » Et on voilà. Donc ça, c'est une bonne piste de départ. C'est d'annoncer des... voilà, par exemple, j'ai Du silence et des ombres de Robert Mulligan, le fameux Atticus Lynch joué par Gregory Peck. Donc, il est le personnage qui personnifie pour les Américains l'humanisme. Ça, c'est dit avant le film. Et donc, une fois que le film se termine, je vous ai dit au début que ce personnage incarnait l'humanisme. Pourquoi ? Rappelez-vous dans cette séquence, vous vous souvenez quand il dit que, etc. Donc ça nous donne une piste de lancement pour pas déflorer surtout l'œuvre, pour permettre aux gens de la voir par eux-mêmes, mais en même temps de situer quand même l'importance de certains codes de mise en scène ou de certains thèmes qui vont être abordés par l'auteur dans le film. Et après, on revient dessus. Et puis après, le débat se lance avec les questions dont j'ai parlé.